Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 14e épisode de Popol. Et pour ce 14e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Estelle Gianjo. Bonjour Estelle.
Salut.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va super bien.
Tu peux nous parler de toi un peu, s'il te plaît?
Oui, alors je suis journaliste société, je suis féministe, je suis une militante antiraciste également. Et j'ai beaucoup travaillé donc avec Reuters, Voice of America, Radio-Canada, donc, et pour la France, je suis une ancienne de LCP et de Public Sénat. Voilà, donc je suis très intéressée par les faits politiques et de société.
Cool, merci d'être là Estelle. Nous avons aussi Juliette de Caussan. Bonjour Juliette.
Bonjour, donc Juliette de Caussan.
Pardon. ça commence bien.
C'est pour ça, non, je suis présidente de l'association Égalité Ensemble, qui sera lancée officiellement le 8 mars prochain. Je suis une personne très intéressée par trois thèmes, je dirais l'égalité, l'Europe, l'écologie et surtout l'égalité, que je souhaite favoriser dans le domaine en particulier politique. Donc, c'est l'une de mes activités que je fais depuis quelques années déjà.
Super, merci beaucoup Juliette et désolée d'avoir écorché ton nom. Ensuite, nous avons Lucille Pétavin. C'est bon, je l'ai bien dit.
Alors, on dit plutôt Pétavin, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance.
Bon, alors Lucille Pétavin, vas-y.
Bonjour à toutes, je suis ravie d'être là. Donc, moi, je suis docteur en histoire. Spécialiste des femmes dans l'artisanat et le commerce au 19e et au 20e siècle en milieu rural. Et je suis également autrice. Je sors mon premier essai donc, le 5 mars aux éditions Anne Carrière, qui s'intitule « Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes ».
Waouh, intéressant ça. Tu peux nous dire un petit mot ou... Garde ça pour la fin.
Exactement.
Ok, ça marche, génial. Bon, bah, dans ce cas-là, on va se lancer sur nos deux thèmes de la journée. Donc aujourd'hui, on va parler des macronistes qui appellent à un rééquilibrage à gauche. Et ensuite, dans un second temps, nous parlons des agressions sexuelles dans le domaine politique. Sans plus attendre, commençons par le premier thème. À 14 mois de l'élection présidentielle, l'aile gauche de la majorité appelle à un rééquilibrage de la politique du président de la République jugée un peu trop à droite. En effet, le 6 février dernier, une quinzaine de députés de La République En Marche ont adressé un courrier au Premier ministre dans lequel ils ont présenté 13 propositions pour que le gouvernement fasse un effort plus important sur le plan social. Parmi ces députés figurent des poids lourds de la majorité, notamment le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Ranson, et l'ancien numéro 2 du parti, Pierre Person. De manière tout à fait symbolique, Emmanuel Macron a cherché à répondre à cet appel en présentant jeudi dernier à Nantes son plan « Talent du service public », qui consiste en une série de mesures pour favoriser l'égalité des chances dans la haute fonction publique. Alors, est-ce que vous l'attendiez, vous, ce virage à gauche, Estelle ?
Alors, je pense que le virage à gauche, il est attendu par... surtout par l'électorat en fait, qui est déçu de la Macronie, on va dire ça, parce qu'aujourd'hui, quand je pense à l'électorat qui a voté pour Benoît Hamon ou bien pour Jean-Luc Mélenchon, on ne se pense pas qu'ils attendaient quoi que ce soit de la part du gouvernement d'Emmanuel Macron. Maintenant, ça fait, c'est vrai que la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron l'a surtout vu centrée autour des lois qui sont très très fortes, qui sont très à droite, et ça a été reproché très tôt. Dès 2018, en fait, je me souviens très bien de la loi asile-immigration, par exemple. Je pense que ça a été vraiment la première phase qui a vraiment donné une bonne cassure. Donc, c'était l'ancienne loi de Colomb, donc, en rapport à l'ancien ministre Gérard Collomb, qui est parti. Et déjà, je me souviens, à l'Assemblée, on avait la députée Sonia Crimi, qui faisait partie des nouvelles figures émergentes, qui avait essayé de dénoncer en fait, cette première dérive en disant « mais en fait, on n'a pas signé pour ça ». Donc déjà, on sentait qu'il y avait effectivement cette première cassure. Et ensuite, je pense que le volet gilet jaune est aussi venu assommer concrètement ce lien, selon moi, encore une fois, entre le peuple effectivement populaire donc, qui pourrait voter à gauche pour Emmanuel Macron et le gouvernement. Donc maintenant, si c'est attendu, on va dire... Aujourd'hui, est-ce que c'est trop tard? Je dirais que la pandémie en fait efface pas mal l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'en fait c'est on oublie presque qu'on est à quelques mois de l'élection. Heureusement entre guillemets, on a encore des débats politiques en heure de grande écoute qui nous le rappellent, mais on est tellement pris par la pandémie et ses conséquences qu'on oublie presque le fait que le gouvernement pourrait en fait virer à gauche.
Oui, oui, oui. Et puis les signaux sont quand même pas tout à fait ouverts, quoi. Enfin, d'ailleurs, je lisais un article assez intéressant récemment dans Le Monde qui faisait notamment référence au fait que finalement les poids lourds du gouvernement sont des personnalités de droite. On pense au ministre de l'économie, on pense au ministre de l'intérieur. Et finalement, ceux qui sont à gauche, typiquement Dussopt ou Le Drian, qui en tout cas avaient l'étiquette socialiste, sont peu actifs en ce moment au sein du gouvernement. Alors, ceci dit, non, il y a Véran quand même. Véran est socialiste, il ne faut pas l'oublier. Mais enfin bref, les principaux ministres qui sont peut-être déjà le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie sont des personnes de droite. Lucille, qu'est-ce que tu penses cette tentative de virage à gauche, est-ce que tu crois comme Estelle qu'il est trop tard ?
Alors moi, sur cette question, c'est plus le terme de rééquilibrage que je questionne, puisque quand on regarde les dépenses publiques, sociales, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, en fait, on se rend compte qu'elles n'ont pas diminué. Et dans notre pays, elles représentent à peu près 32% du PIB, alors que la moyenne dans les pays de l'OCDE est environ de 20%. Et aujourd'hui, avec la crise du Covid, on voit que l'État a investi, par exemple, pour les services de santé à hauteur de 12 milliards d'euros, supporte le chômage partiel à hauteur de 34 milliards d'euros, a créé un fonds de solidarité pour les petites entreprises de 20 milliards d'euros, etc., etc., etc. Et finalement, au total, il est prévu que la France dépense pour faire face à cette crise environ 86 milliards d'euros. Moi, je me dis que au vu de ces chiffres, on est loin de la politique ultralibérale qui est souvent reprochée à Emmanuel Macron. Et j'observe que quand même l'État-providence, là, pour le coup, joue son rôle à plein, sachant que d'ailleurs, à cause du ralentissement des activités économiques, il va y avoir un manque à gagner pour l'État d'à peu près 100 milliards d'euros au total. Et du coup, c'est pour ça que je m'interroge un peu sur ce terme de rééquilibrage, parce qu'il ne me semble pas tellement approprié compte tenu des responsabilités sur la politique sociale que prend l'État et qui n'est pas conduit par une rigueur budgétaire. Et finalement, je me suis demandé pourquoi des personnes du camp d'Emmanuel Macron qui l'accompagnent dans sa politique pouvaient ressentir le besoin d'un virage à gauche. Et là, ça rejoint peut-être un peu ce qu'on disait, c'est que le président souffre aussi d'une image du président des riches. On peut rappeler qu'il a été banquier pour Rothschild, et que finalement cette image fait que sa politique sociale est peut-être de fait invisibilisée. Et aussi, comme le disait Estelle, il y a cette question de calendrier qui n'est pas anodin, évidemment, on arrive à la fin de cette crise, on l'espère avec la vaccination. Et il y a des inquiétudes qui sont économiques. Est-ce que les secteurs les plus touchés vont s'en sortir rapidement? Comment va se passer la fin des aides accordées par l'État, etc. Et ça, c'est tout à fait entendable. Mais effectivement, on est à un an de l'élection présidentielle et on peut penser du coup que l'aile gauche de la majorité souhaite appuyer sur cette ligne pour convaincre à nouveau, essayer de remobiliser les électeurs de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron donc aux dernières présidentielles et également aux législatives.
Après, il ne faut pas oublier que ce qu'on est en train de traverser, c'est un événement conjoncturel. Je ne sais pas si sur l'aspect structurel, s'il n'y avait pas eu cette crise, il y aurait eu un interventionnisme aussi important. Et, alors, et je pense qu'il faut, à mon sens, je trouve très intéressant que tu aies décidé d'aborder cette question à travers les aspects de dépenses budgétaires sur le soutien, mais j'ai le sentiment que ces dépenses budgétaires sont d'une part conjoncturelles et d'autre part sont là pour des raisons économiques. Et par ailleurs, je ne sais pas si ces dépenses-là auraient été faites dans une conjoncture plus normal, disons. Je ne pense pas qu'il y aurait eu un interventionnisme étatique tel que celui-ci. Enfin, et j'aimerais aussi rajouter un petit point. Les dépenses que l'État fait aujourd'hui, ce sont aussi des dépenses européennes. Je pense que ça, c'est important de le dire. Il y a eu quand même un sursaut européen très important. La décision de s'endetter de manière commune au niveau de l'Union européenne, Emmanuel Macron a beaucoup poussé dans ce sens. Angela Merkel a accepté. C'est quand même assez historique et je pense que ça pousse aussi d'État à avoir cette politique très interventionniste, mais qui, à mon sens, est très clairement motivée uniquement par des raisons économiques et pas sociales. Juliette, tu veux réagir ?
Oui, alors je tiens quand même à dire que donc, je vous ai écouté. Avant la crise, il y a eu quand même des actions sociales intéressantes. Hein. Je parle au niveau éducatif, notamment le dédoublement des classes de CP. Ça, c'est quand même un point qui est à marqueur social. Il y a aussi la question de la scolarité obligatoire dès l'âge de 3 ans parce qu'il y avait un certain nombre d'élèves et surtout de milieux défavorisés qui étaient gardés à la maison et qui démarraient dans leur vie avec un moindre vocabulaire, réduisait leur chance pour la primaire et pour la suite. Donc ça, c'est quand même quelque chose, c'est un marqueur social. Ensuite, concernant les gilets jaunes, alors il ne faut pas oublier que c'est une histoire d'écotaxe quand même qui nous a mené à ça. Et l'écotaxe, François Hollande a tenté de la faire, ça a donné les bonnets rouges. Donc, dans les faits, le fait de faire une écotaxe, ce n'est pas un marqueur de droite. Alors, ce que je constate, c'est que ce qui est cité comme des marqueurs de droite, finalement, ce n'est pas tant des mesures économiques. Peut-être qu'il y en a une ou deux, comme la réforme de l'ISF en IFI, qui peut être prise comme telle, mais les mesures qu'on cite comme des mesures de marqueurs de droite sont donc les mesures asile et immigration. Donc, est-ce qu'on peut considérer que asile et immigration, ou s'axer sur la laïcité, la loi contre les séparatismes, ce type d'éléments qui sont plus, je dirais aussi, qui ont un aspect plus idéologique que économique au départ. Est-ce que la question de ce curseur gauche-droite, elle est posée là. Est-ce que le fait de durcir les lois sur l'immigration, c'est être de droite ou pas? Est-ce que dans la situation, en sachant que la France est quand même, certes, une puissance, comme le disait Giscard, moyenne actuellement, avait-elle les moyens peut-être de continuer une telle politique de l'immigration? Qu'est-ce qui motive aussi ces choix? Alors, est-ce qu'on peut continuer forcément de considérer qu'économiquement une immigration dans un pays avec du chômage, avec des éléments sociaux qui ne sont pas aussi faciles que durant les Trente Glorieuses, est-ce que c'est possible? Donc moi je pense que par contre, quand on se concentre sur les aspects économiques, les aspects vraiment sociaux, non marqués, je dirais, idéologiquement, dans le sens où on se dit telle mesure c'est un marqueur de gauche ou de droite, ça n'est pas ça le point. Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement les dépenses publiques. Il y a quand même des mesures qui sont prises. Alors effectivement, celles qui sont prises durant la crise, elles sont très interventionnistes, donc c'est clairement quand même bien marqué, je dirais, dans la social-démocratie, on va dire ça comme ça. Celles qui ont été prises avant n'étaient pas non plus complètement à droite, on ne peut pas dire ça. Il y a eu des mesures qui étaient marquées à gauche, d'autres à droite. Alors le « en même temps », par contre, peut être difficile à comprendre. ça peut être compliqué pour des personnes qui ont des repères, effectivement, avec des marqueurs gauche-droite, de se dire, bah, ça, c'est plutôt, ça a l'air d'être à gauche, ça, ça a l'air d'être plutôt à droite. Et finalement, on est dans une société assez mouvante où j'ai l'impression que dorénavant, on a des causes qui se rejoignent, égalité des chances, égalité des sexes, question aussi des minorités, question de l'agisme, ce type d'éléments. Donc, on a des causes, on a la question économique. Et donc, toutes ces histoires gauche-droite, eh bien, on a des conflits idéologiques qui se passent. Et finalement, eh bien, tous ces curseurs-là sont en train de bouger. Et ça, c'est une marque, finalement, de la révolution politique, plus peut-être que d'un rééquilibrage. Donc, est-ce qu'on peut faire une politique plus centriste ? C'est ça la question.
Alors, c'est intéressant que tu dises ça. Alors, il faut effectivement peut-être que l'on distingue les aspects économiques, surtout en ce moment, dans une période très singulière, très particulière, qu'on n'a jamais connue, et les aspects idéologiques. Pour être très honnête et pour répondre un peu à ce que tu étais en train de dire, vouloir lutter contre l'immigration, c'est un marqueur idéologique d'extrême droite. Voilà. Après, moi, sur la question de l'immigration, je préfère qu'on soit assez prudent parce que j'ai un peu du mal à comprendre le lien entre eux. Il y a des gens qui arrivent, donc ça crée du chômage. D'une part, beaucoup de personnes qui viennent en France ne viennent pas en France pour ne rien faire. D'autre part, s'il y a du chômage dans notre pays, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi qui se crée. Hein. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas envie de travailler, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi qui se crée. Il faut vraiment, je pense, être très, très prudent sur ce thème et déconstruire un peu un certain nombre de préjugés. Du coup, s'il y a des chiffres à apporter là-dessus, je veux vraiment qu'on me mette enfin, face à moi des chiffres en me disant si jamais on ouvre les frontières et qu'on ne réduit pas les flux aujourd'hui, ça va devenir une catastrophe en France. J'aimerais qu'on me le montre, vraiment.
Parce que j'ai pas dit que l'immigration créait le chômage. J'ai juste expliqué que durant les Trente Glorieuses, il y avait effectivement un appel bien plus important à la main-d'œuvre étrangère, parce qu'il y avait effectivement de la croissance et tout ça. Et politiquement, aujourd'hui, comme nous ne sommes plus en situation de forte croissance, c'est compliqué politiquement parfois de justifier. Après, moi, je suis...
Tu veux dire de faire accepter le fait...
Voilà, je suis bien sûr, bien au fait que, voilà, il y a l'intérêt aussi d'avoir de la main-d'œuvre, il y a le partage des connaissances, il y a le fait de faire circuler les cerveaux, tout ça, ça permet de développer effectivement un pays. Hein. La fermeture des frontières n'est jamais quelque chose qui est en faveur forcément d'un pays. Alors, moi, je ne suis pas pour entrer dans le débat par rapport à oui ou non pour l'immigration. Ce que je dis, c'est que simplement que lorsque l'on durcit les conditions d'immigration ou lorsqu'on les revoit, par exemple, en exigeant un certain nombre de conditions, de diplômes ou autres supplémentaires, eh bien, ça sera considéré comme un marqueur de droite. C'est simplement, voilà, comme il y a eu, Estelle a parlé de cette loi-là spécifiquement pour dire, voilà, c'était un marqueur de droite. Moi, j'ai essayé de simplement de vous dire qu'à la même époque, il y a eu des choses qui ont été faites et qui étaient d'un marqueur considéré comme de gauche.
Estelle, tu veux réagir ?
Oui, alors j'ai bien écouté effectivement ce que Juliette et Lucille ont dit. Et c'est vrai que, encore une fois, quand on parle de mesures, et j'entends tout à fait le fait que ça soit au niveau de la majorité, on essaie absolument de défendre toute la succession, dégrainer les mesures donc dites sociales, donc ayant un marqueur de gauche, qu'on fait passer effectivement le gouvernement. Le truc, c'est quoi ? C'est que Lucille a effectivement parlé d'État-providence, et ça a tilté parce que j'ai eu cette impression où on demande à certains Français d'être reconnaissants pour des droits qui leur sont dus. Et en fait, c'est assez dingue, parce que surtout dans cette période de pandémie où on dit non, mais on a mis ça en place, voilà, il ne faut pas l'oublier. Je dis, ah, c'est super. Mais le problème, c'est que quand on a aussi des images beaucoup plus fortes, des mutilés, des gens qui sont pris des flashballs pendant quand même des semaines et des semaines et des semaines, je me souviens que la première fois je suis partie sur un rond-point. C'était effectivement la première semaine de novembre quand ça a pété. C'était vraiment c'était très dur. Il y avait surtout le mépris. Donc beaucoup de mépris, le fait de ne pas être considéré, et ça m'avait beaucoup marqué parce que les gens, en me voyant arriver, c'était en Picardie, je suis partie, c'est vrai qu'ils étaient un peu réticents. Et ces gens-là, je les ai vus manifester encore, venir à Paris et toutes les semaines, et on ne peut pas en fait balayer du revers de la main le fait que les gens, surtout certains Français, se sentent totalement méprisés par le président de la République, qui dit qu'en passant la rue, en traversant la rue, il suffit d'avoir, on peut avoir en fait un métier. Donc c'est aussi ça qu'il ne faut pas oublier quand on parle d'idéologie, on nous met en face toutes les mesures économiques, sauf qu'en face, on a quand même un gouvernement qui est marqué même à droite, et là je reviens sur ces ministres qui composent le gouvernement, qui sont censés porter des ministères de gauche, des ministères d'affaires sociales, je pense notamment on peut commencer par Jean-Michel Blanquer, c'est pas le meilleur ami des profs, Vidal, c'est pas la meilleure amie des étudiants, là bon, on a Olivier Véran, c'est dans un contexte très, très spécial parce que c'est la pandémie, mais Agnès Buzyn n'était pas non plus la meilleure amie des soignants. Je veux dire, l'hôpital est aussi en crise. Voilà, que ce soit la culture avec Roselyne Bachelot, qui est ancienne ministre de Chirac, qui a quand même récupéré ce ministère parce qu'elle n'a pas pu résister. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on pense à la culture, alors que l'électorat, n'oublions pas l'électorat de gauche, c'est aussi des artistes, c'est aussi des intermittents. Et quand on voit des théâtres, les cinés, les musées fermés, c'est aussi un message qui est fort. On a dit à ces gens qu'ils étaient non essentiels. Donc forcément, quand on en face, on a la mesure du pass culture qui était censée de base être quelque chose de très fort de la part du gouvernement, mais ça fait pchit. Il n'y a pas de pass culture, mais les artistes sont non essentiels. C'est le message qu'on entend à la fin. Et donc là, je parlais de la loi asile et immigration, mais je peux aussi parler de la loi de sécurité globale, qui a fait aussi redescendre aussi cette gauche-là dans la rue. Donc, on peut aussi parler des violences policières. Donc, c'est des choses, en fait, forcément, quand on a des mesures d'État-providence sociale, et qui sont aussi, une succession aussi du gouvernement précédent aussi, Hollande, il ne faut pas l'oublier, ça paraît être quelque chose qui va plus de soi que des mesures qui s'apparentent effectivement à une politique de gauche.
Voilà. Juliette, tu voulais réagir et on va conclure avec toi si ça ne te dérange pas sur ce thème. Merci.
Oui, alors, bon, c'est vrai que tu reviens effectivement sur les gilets jaunes et puis des petites phrases, peut-être pas effectivement. Il faut bien se rendre compte aussi d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un homme politique ou une femme politique. Limite, vous êtes filmé 24 heures sur 24 avec un téléphone portable. Vous êtes filmé partout, tout le temps. Il faut bien se rendre compte que quand on était du temps de Gaulle ou autre, il y avait un rendez-vous qui était pris, le truc était filmé, la déclaration publique, elle était...
Et c'était archibordé.
Et puis, on ne touchait pas à la vie privée. Mitterrand pouvait avoir une fille cachée pendant des années. On avait comme ça une étanchéité absolument... Je ne dis pas, les gens ne sont pas parfaits, ça c'est évident. On dit des choses et puis tout est interprété. Et la petite phrase, c'est maintenant, c'est aussi un marqueur politique d'aujourd'hui. On sort la petite phrase et puis elle peut être commentée pendant des mois. Ensuite, concernant effectivement les gilets jaunes et tout ça, ça c'est un élément où effectivement on se rend bien compte que c'est aussi peut-être ça qui a porté au pouvoir Emmanuel Macron, c'est que les citoyens sont maintenant extrêmement, ils sont investis, ils ont des causes qu'ils veulent défendre, ils ont des désirs aussi de choses au niveau de l'État, ils sont beaucoup en attente de l'État, et donc ça fait partie aussi de cette réaction, et je ne suis pas certaine que les gilets jaunes étaient tous de gauche. Moi, je pense qu'il y en avait aussi qui étaient pas mal d'extrême droite et j'en ai croisé un bon paquet qui n'était pas du tout
à gauche. Il y en a même qui ont voté pour Macron.
Il y avait de tout. Il faut bien se rendre compte aussi que quand les gilets jaunes manifestent et tout ça, qui cassent tous les magasins et tout, on ne peut pas non plus. Il y a manifesté. Voilà. Il y a recevoir effectivement de façon indue un flashball et tout ça, ça c'est horrible. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a aussi les casseurs, les vitrines, les commerçants qui ne peuvent pas travailler. Et on ne peut pas tout le temps opposer voilà, la société française en disant bah, le peuple, ce serait les gilets jaunes. Et puis les commerçants qui sont dans leur commerce et ceux qui veulent faire leurs courses et tout ça ne seraient pas du peuple. Donc à un moment donné, fractionner le peuple en disant les gilets jaunes c'est le peuple, les autres c'est pas le peuple, donc Macron entre guillemets mépriserait le peuple, bah c'est faux.
Merci beaucoup les filles pour ce débat, pas facile hein, mais très intéressant en tout cas. Je pensais pas que ça nous mènerait aussi loin, mais très cool. Merci beaucoup. On va passer au prochain thème si ça vous dérange pas. On va parler aujourd'hui des agressions sexuelles dans le domaine politique. Ces dernières semaines ont été tristement marquées par de nombreuses affaires d'agressions sexuelles dans le domaine politique. On pense bien entendu à la vague de témoignages sur les réseaux sociaux avec le hashtag MeTooGay qui a tristement débouché sur le suicide de Guillaume T qui avait lancé ce hashtag en dénonçant des agressions sexuelles qui auraient été commises par un élu communiste de Paris et son conjoint. Et aussi bien sûr le hashtag SciencesPort dénonçant de nombreuses agressions sexuelles dans les IEP de France. Sans oublier aussi les accusations à l'encontre de François Asselineau, président de l'UPR, de la part de deux de ses anciens collaborateurs. Bref, une semaine très mouvementée. D'après vous, sommes-nous à l'aube d'un MeToo dans le milieu politique, milieu où le silence est d'or? Lucille, qu'en penses-tu?
Alors justement, moi je me suis demandé s'il y avait des spécificités dans le milieu politique sur ces questions d'agression sexuelle. Puisque finalement, c'est effectivement un univers dans lequel le pouvoir est entre les mains encore d'une majorité d'hommes qui sont parfois tout puissants, que ce soit dans leur fief, dans leur parti, et donc du coup, qui sont souvent les agresseurs. Et ça, c'est quelque chose que Sandrine Rousseau avait évoqué en 2019 lorsqu'elle avait accusé Denis Baupin d'agression sexuelle, et elle disait du coup que dans ce cadre, il était impossible que justice soit faite pour les victimes finalement. Mais aussi au-delà de l'affaire politique, enfin de la sphère politique, pardon, je vois que finalement tous les milieux sont touchés, que ce soit le monde du sport, le monde des arts, le monde de l'enseignement, avec ce qui se passe à Sciences Po aussi, par exemple, en ce moment. Et finalement, je pense qu'on ne doit pas être étonné et que ce n'est que le début. Voilà, tu parlais de vagues, effectivement. L'omerta, là, elle commence juste à se lever sur ce sujet. Et ça commence juste parce que aussi ces agressions sont le fruit du système patriarcal dans lequel on vit, parce que lorsque l'on regarde d'un peu plus près, on voit que le point commun qu'il y a entre ces agresseurs, finalement, ce n'est ni le milieu social, ni le niveau d'éducation, ni l'âge. En fait, c'est le fait que dans une immense majorité des cas, ce sont des hommes. Et si bien que 97% des personnes qui sont mises en cause aujourd'hui pour crimes et délits sexuels sont des hommes. Et d'un autre côté, ces crimes sont largement impunis. Par exemple, lorsqu'il s'agit des questions de viol, aujourd'hui encore, seulement 10% des victimes portent plainte et moins de 10% de ces plaintes conduisent à une condamnation. Donc c'est tout à fait effarant. Et finalement, face à ça, on pourrait se dire que le fait que les hommes politiques soient rattrapés par leur comportement est révélateur du fait que la société entend et écoute surtout de plus en plus les victimes, et notamment grâce à l'avancée des mouvements féministes comme MeToo, par exemple. Mais je vois aussi que les résistances sont fortes et là il ne faut pas être dupe, c'est-à-dire que souvent on peut, les réactions sont effarantes. Je me dis mais pourquoi on légitime encore autant les actions, les comportements des agresseurs, et on fait porter la culpabilité aux victimes? Et d'ailleurs, il y a une enquête qui est récente sur ce sujet et qui montrait que 42% des Français estiment que lorsqu'une victime a un comportement provoquant, cela atténue la responsabilité du violeur. Donc, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. Et aussi ce à quoi s'ajoute bien souvent l'argument des fausses accusations dont seraient victimes les accusés. Et là aussi, quand on regarde les études, les fausses accusations représenteraient seulement entre 2 et 4% du total. Donc, l'insistance qu'il y a autour de cet argument ne se justifie absolument pas. Et moi, j'insiste bien sur ce point-là, du coup. Et enfin, je voulais aussi faire un point sur toutes les croyances qu'il y a autour finalement de la sexualité des hommes et qui légitiment là encore leur comportement abusif. Et s'il le faut, il faut bien rappeler que les hommes n'ont pas de besoin naturel qui justifierait leur comportement d'agresseur ou de violeur. Et il a été démontré que des hommes qui sont tout à fait normalement constitués peuvent ne pas avoir d'envie ou peu d'envie, alors que des femmes, beaucoup plus. Donc, il faut être bien clair avec le fait qu'il n'y a pas de déterminisme concernant la sexualité en fonction du sexe des individus. Et contrairement aux idées reçues, là aussi, la testostérone n'a aucun lien avec les comportements sexuels des hommes. Les hommes sont responsables de leurs actes. Et d'ailleurs, ils sont jugés par la justice comme tels. Et du coup, je voudrais conclure en disant que les agressions sexuelles ne répondent pas à des envies irrépressibles, comme on peut bien souvent l'entendre. Et je cite une dernière étude, promis, c'est la dernière. Donc, une étude qui a été menée auprès de 114 violeurs condamnés qui a révélé que 89% d'entre eux déclaraient avoir eu des rapports consentis au moins 2 fois par semaine avant leur incarcération. Donc, du coup, ce qui prouve bien que le viol n'est pas du tout une pulsion incontrôlable comme on peut le penser, comme on peut le penser dans nos schémas culturels, mais bien la conséquence d'une décision rationnelle qui repose sur un rapport bénéfice-risque qui est calculé, souvent prémédité. Et je dois dire que je suis heureuse aujourd'hui de voir que dans le monde politique, les risques, justement, sont de plus en plus élevés.
Merci beaucoup, Lucille, pour cette démonstration très circonstanciée et cette belle déconstruction. Bravo. Estelle, je suppose que tu as toi aussi suivi ces dénonciations, enfin, tous ces témoignages. Est-ce que tu penses que le milieu politique est en train de vivre sa séquence MeToo à laquelle il a un peu échappé jusqu'à présent?
Alors, non, je ne pense pas, parce que le monde politique, en fait, a des casseroles, a des squelettes dans le placard depuis très longtemps. C'est vrai que quand tu as proposé ce thème-là, j'ai tout de suite pensé à DSK. Et je me suis dit, mais ça fait depuis 2011. ça fait depuis très longtemps. Je dis 2011 parce que c'est un peu la date phare, le tournant au Parti Socialiste. Mais bien sûr, il y en a eu d'autres. Le sexisme en politique, c'est omniprésent. Ça gangrène en fait tous les partis, et effectivement Lucille elle a très bien dit avec l'exemple de Denis Baupin, c'est important de montrer que ça a rien à voir avec pour le coup, on en a parlé tout à l'heure, du clivage droite gauche droite, c'est vraiment tout le monde. Pourquoi? Parce que ça touche toutes les sphères de pouvoir. Et c'est pas étonnant qu'en fait Sciences Po, donc le mélange entre Balance ton port et Sciences Po, soit en fait au devant de la scène médiatique, parce qu'en fait Sciences Po est un lieu de pouvoir. Alors, autour de la politique, non, je pense pas, parce que en revenant sur 2011, sur DSK, pour ceux qui ont l'occasion de regarder le documentaire sur Netflix, La Chambre 2806, c'est assez bien fait, parce qu'on montre comment systématiquement, en fait, Dominique Strauss-Kahn passe entre les mailles du filet, à quel point il est systématiquement protégé par les hommes en fait qui l'entourent, que ce soit au FMI, au Parti Socialiste, enfin voilà, c'est assez terrifiant, faut faire attention.
Et par les femmes.
Et par les femmes, et sont protégées par les femmes. Donc, on voit aussi que c'est aussi un sexisme aussi internalisé. Donc, c'est assez dur pour moi de dire que c'est quelque chose qui va tout changer. Quand je pense à Isabelle Guigou, qui dit des propos effarants, Jack Lang qui dit des propos effarants et profondément sexistes sur Nafissa Toudjalo, sur le comportement de DSK, je me dis qu'on ne peut pas dire qu'on est dans une période de révolution et de MeToo politique. On ne peut surtout pas dire qu'on est dans une période de MeToo politique quand on sait que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est toujours en charge d'un ministère régalien très important, premier flic de France, et qu'il est sous le coup d'une accusation de viol. Alors, on dit toujours, et c'est toujours important de répéter, qu'il y a une présomption d'innocence. Maintenant, on ne peut pas, en fait, imaginer que... un gouvernement prenne au sérieux, ou du moins le monde politique puisse prendre au sérieux la question des violences sexuelles contre les femmes, quand on a effectivement la personne qui est en charge d'un ministère où, quand on va déposer plainte, on va vers la police, et ce même premier flic est sous le coup de cette accusation. Alors aujourd'hui, c'est normal qu'on puisse se poser la question de se dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelqu'un d'autre, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas sous le coup d'une accusation qui peut aussi faire l'affaire? Enfin voilà, ça c'est juste pour la parenthèse d'Armanin, mais en ce qui concerne les autres violences sexuelles, surtout par rapport à Sciences Po, je tiens à dire que Sciences Po, c'est aussi une entité qui est particulièrement, avec l'affaire Millon, avec l'affaire Duhamel, c'est assez compliqué parce que Sciences Po, c'est une entité qui est vue internationalement comme étant l'excellence à la française. Il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de dons qui viennent aussi des étudiants étrangers qui viennent, notamment anglophones, qui viennent en fait faire leur scolarité à Sciences Po. Et si vous voulez, le fait qu'il y ait eu cette omerta aussi autour de... du fait qu'on n'ait pas pris en compte toutes les plaintes de ces étudiantes qui se plaignaient d'être en fait violentées sexuellement sur le campus et en dehors pendant les fêtes, et aussi le fait qu'on ait protégé Olivier Duhamel, par exemple, c'est aussi le fait qu'on n'a pas envie que l'image soit écornée. On n'a pas envie en fait, que cette institution en fait, passe pour une espèce de passe à violeurs. On ne va pas certainement pas envoyer ses enfants dans ce genre d'université. Après, pour le MeToo gay, juste pour revenir dessus encore une fois, quand je parle d'aspect systématique, évidemment, quand je pense à MeToo gay, enfin, quand je pense à Guillaume, pardon, à ce qui lui est arrivé, et on l'a retrouvé pendu dans sa chambre donc, de Nanterre, donc c'est terrible, il avait en fait dénoncé quelque chose qui était assez important, que je tiens à souligner, le fait qu'il ne supportait pas le fait de voir donc, ces violeurs, supposé présumé violeur, donc Maxime Cochard et son compagnon Victor Labie, monter en grade dans les instances du Parti communiste. Il faut savoir que le Parti communiste...
Et au sein de la ville de Paris.
Et au sein de la ville de Paris, justement, et la mairie du 14e a remercié Maxime Cochard et elle l'a enlevé de ses charges en lutte. Il semblait qu'il avait, il avait des dossiers en charge de lutte contre les discriminations.
Absolument, ouais.
Donc on l'a remercié, le Parti communiste leur a demandé aussi de se mettre en retrait, et suite à ces dénonciations, hein, et c'était le 21 janvier, il me semble, dans un tweet, on est à peine le 13 février, donc en fait, tout s'est passé très vite. Encore une fois, l'enquête est en cours, on ne sait pas si les deux sont en lien, mais bon, on sent que, à mon avis, Guillaume a dû être quand même mis sous pas mal de pression, parce que ça a provoqué quelque chose, une vague énorme. Il y a eu plus de 12 000 tweets associés au MeToo gay, de personnalités journalistiques, médiatiques, connues ou pas, qui ont en fait révélé que dans leur enfance ou dans leur âge adulte, ils ont été victimes de viols ou d'agressions sexuelles en étant gays. Et c'est important juste de revenir sur ce qui s'est passé, parce que Guillaume, en fait, racontait qu'il avait été abusé par Maxime Cochard et donc son compagnon, alors qu'il était en situation de fragilité. Et en fait, quand j'ai vu effectivement ce hashtag MeTooGay, j'ai tout de suite pensé aussi à l'enquête de Street Press, qui est un pure player en ligne, qui avait pointé du doigt l'association Le Refuge. Et Le Refuge, en fait, c'est une association qui vient en aide à des jeunes homosexuels qui fuient leur foyer et qui cherchent, encore une fois, un refuge où, en fait, on pourrait les accueillir. Et dans ce même refuge-là, il y a des personnes en charge de ces jeunes qui les ont abusés sexuellement aussi. Et donc ça, c'est qu'on est dans un cercle de souffrance infinie qu'on ne peut même pas en fait jauger. Et si vous voulez, encore une fois, il y a ce schéma qui revient de personnes en situation de fragilité qu'une personne en charge, donc au niveau de la hiérarchie ou qui a profité de sa situation de vulnérabilité pour les abuser sexuellement. Et donc, encore une fois, on est dans un aspect systématique, que ça soit à Sciences Po, dans un lieu de pouvoir, que ça soit auprès de jeunes, et là, le MeToo inceste avec le livre La Familia Grande de Camille Kouchner le montre bien, que ça soit dans un cercle familial où le patriarche a presque un droit de cuissage sur ses enfants. Enfin, c'est extrêmement violent de le dire, mais c'est aussi une réalité. On est dans à chaque fois des cercles, en fait, où il y a des rapports de force entre victimes et agresseurs qui se font, et encore une fois, on l'a très bien dit, Lucie l'a très bien dit, ça n'a rien à voir avec les couches sociales, ça n'a rien à voir avec le fait d'être pauvre, riche, gauche, droite ou quoi que ce soit, ça se passe partout, mais la politique est un vivier parce qu'on a beau dire, il ne faut pas non plus le négliger, il y a des personnes politiques qui viennent de Sciences Po, beaucoup viennent de Sciences Po, beaucoup de personnes qui ont des grandes entreprises viennent de Sciences Po, et viennent déjà de cette culture où en fait on leur dit qu'ils sont au-dessus des autres, où ils sont biberonnés en leur disant qu'ils feront partie de l'élite française. Et forcément, quand on a des passe-droits, quand on a des jeunes garçons qui font partie de classes CSP+, qu'on laisse en fait passer pas mal de choses, ils n'ont qu'un rappel à la loi, et au final, quand ces jeunes femmes qui ont porté plainte auprès de la hiérarchie de Sciences Po ou de leur école, leur IEP, et que rien n'est abouti, donc là c'est en train de changer parce que c'est médiatiquement mis en avant, mais avant rien n'était forcément changé, et qu'elles se retrouvent en stage avec eux dans des cabinets de conseil, d'audit, de ministère ou ce qu'on veut, et bon, on a beau dire, c'est quelque chose qui est très important, je termine là-dessus, ce n'est pas une question étudiante, c'est ce genre de sexisme et de harcèlement et d'agression sexuelle, c'est des histoires qu'on traîne jusqu'au niveau de la carrière en fait professionnelle, en fait en stage, en contrat pro, et quand on commence la carrière politique, en fait c'est des choses qui sont dures. On va dire, ah regardez, c'est la nana en fait que telle a s'est tapée ou je ne sais quoi, c'était là, je vais pas dire des mots vulgaires, mais voilà, de l'année. C'est des choses qui, au final, qui forgent cette culture du viol, cette culture du sexisme qui est prédominant en politique.
Juliette, je te laisse réagir sur tout ce dont on a parlé.
Il y a beaucoup de choses. Je suis assez d'accord globalement avec certains constats qui ont été faits. Effectivement, la violence sexuelle, la violence sexiste, le harcèlement sexuel, les viols, l'inceste, tous ces éléments-là, ben, c'est structurel dans notre société. Moi, je ne pense pas que la politique... la politique, ça s'exprime dans les familles, ça s'exprime dans le milieu du travail, ça s'exprime dans les transports en commun, ça s'exprime. Je veux dire, moi, je suis arrivée à Paris, j'avais 18 ans. Dès que je suis arrivée la première semaine, premier élément, quelqu'un s'assoit dans l'autobus à côté de moi alors que je me dirige vers mon lieu d'études, sort son pénis et se branle. Donc, je veux dire, première semaine à Paris, j'habite toute seule et tout ça, je suis mais complètement choquée, je vais voir le chauffeur, je lui dis « Monsieur, vous avez un exhibitionniste dans votre autobus. » Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, déjà, j'ai eu de la chance. L'autocar s'est arrêté, c'était la ligne 27, j'allais vers le 5e arrondissement, le chauffeur descend, je montre, c'était un type en costard cravate et tout, rien de totalement tout propre sur lui, je dis c'est lui, donc il a descendu, il a dit vous sortez de mon autobus, le type est sorti, et moi pour le reste du trajet j'étais tellement choquée, réaction, j'ai rigolé pendant, enfin c'était des rires nerveux absolument sardonique jusqu'à la fin du trajet, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis quand j'ai dit au chauffeur, bon écoutez, merci, il me dit, mais quand j'y pense, j'aurais dû appeler la police. Voilà. Et en fait, vous arrivez, vous avez entre 15, 16, 17, 18, et même plus jeune, vous vous faites poursuivre dans la rue, effectivement, vous avez les histoires de stage, d'intégration, le harcèlement au travail, la discrimination, et tellement, tellement, tellement de choses. Je ne connais pas une femme, malheureusement, qui n'a pas un épisode plus ou moins du genre à raconter. C'est toujours, toujours des histoires. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'il y a un problème structurel. Il y a un problème structurel, il y a de la discrimination. Tout ça, c'est une violence inouïe, psychologique, qui est même handicapante pour les femmes. On n'ose plus, voilà, après ça, moi je me souviens, avant je me baladais tranquillement en me disant je vais aller m'acheter du chocolat, même à 2h du matin, j'avais aucune conscience de rien, j'avais vécu dans un pays du Nord un peu plus, et je ne m'étais pas rendu compte, et bien vous intégrez la peur, l'autolimitation, l'autocensure. Donc tous ces éléments font qu'effectivement les victimes ou les femmes, et puis les personnes, les homosexuels, les personnes qui sont pas, qui subissent aussi ces violences qui sont le résultat du patriarcat, eh bien elles vont intégrer tout ça. Et donc finalement, tous ces phénomènes-là vont aboutir à une chose. Les dominants, entre guillemets, vont se croire effectivement tout permis et vont continuer à dominer. Les autres vont intégrer l'autocensure. Et puis le système va se nourrir de lui-même. Et donc maintenant la question... c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce fait et comment on agit. Alors, moi, dans le cadre associatif, c'est pour ça qu'on défend beaucoup la parité. La parité, parce que déjà, faire en sorte que les personnes au pouvoir soient représentatives des hommes et des femmes à tous les niveaux, eh bien, ça évite justement qu'il y ait une captation d'un genre, on va dire, par rapport à l'autre, et qu'il y ait cette idée, ben voilà, il y a être un homme, c'est avoir du pouvoir, et donc c'est être impuni. C'est faux, parce que effectivement, il y a des risques, et surtout, ben, il y a des personnes, des hommes qui sont très bien. Et je veux dire, c'est une question aussi d'éducation et d'intériorisation des éléments. Alors, je tiens quand même à dire que je trouve que globalement, le gouvernement actuel est quand même dans une phase d'écoute, qu'il y a eu des nouveautés et des éléments qui ont été apportés. L'allongement de la prescription à 30 ans, c'est déjà un progrès qui a été fait. La sanction du harcèlement de rue, ça, beaucoup de femmes le vivent, hein, de se faire poursuivre partout. L'accueil aussi de la parole. Alors, j'ai très bon espoir quand même pour cette infraction autonome à l'âge de 15 ans. Moi, j'espère aussi que c'est l'âge de 18 ans qui sera accepté pour l'inceste, parce qu'à mon sens, on est dans une telle situation de domination familiale que la personne ne peut pas dire non. Et concernant les IEP, eh bien, je suis désolée de le dire, mais à un moment donné, quand vous ne respectez pas la parité dans les directions des IEP, quand on ne respecte pas la parité dans les directions intermédiaires, eh bien, c'est là que ces aspects non dysfonctionnels résultant de ce patriarcat perdurent. Donc la parité, ça n'est pas que la notion de représenter les femmes, c'est aussi une question de soigner, je dirais, de soigner la société en faisant en sorte que voilà, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est comme ça que je le vois. Si il y a assez de pouvoir pour les uns et pour les autres à tous les niveaux, eh bien du coup on s'auto-limite et donc ça fonctionne mieux, et puis d'ailleurs on est plus performant. Voilà, donc j'espère de tout cœur que les choses vont continuer à progresser dans le bon sens. Et il faut être solidaire, d'ailleurs, quel que soit le parti politique, quelle que soit la sensibilité de gauche ou de droite. Et d'ailleurs, c'est aussi très important que les femmes de droite se lèvent aussi pour améliorer les choses dans leur parti politique. De même pour les femmes de gauche, les gens du centre, chaque femme, en fait, qui s'intéresse à la politique, au lieu de dire, ben voilà, moi, il m'arrive des choses, je vais me mettre en retrait. Non, il faut rester sur place et il faut faire bouger les lignes, chacun à son niveau, parce qu'il faut être dans un combat solidaire pour qu'on arrive à mettre fin à ces violences systémiques. Voilà.
Et oui, très très beau message pour conclure, Juliette, en effet, qu'on ne peut que partager.
Voilà.
On va passer à vos actus. Lucille, tu peux nous parler de ton actualité de la semaine, s'il te plaît ?
Alors du coup, moi, je ne suis pas allée chercher mon sujet bien loin, pardon, puisque je vais vous parler donc de mon essai qui sort le 5 mars aux éditions Anne Carrière et donc qui s'intitule « Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes ». Donc du coup, dans cet ouvrage, je fais le constat que les hommes sont responsables de l'immense majorité des comportements asociaux. Et j'estime le coût qui est supporté par la société et par l'État pour y faire face. Puisque, en effet, quand on regarde les chiffres, les hommes représentent 83% des mis en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice et, in fine, 96% de la population carcérale. Et lorsque l'on regarde par type d'infraction, on s'aperçoit qu'ils sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves, c'est-à-dire les crimes. Et donc, tout cela a un coût, à la fois un coût direct pour l'État en termes de frais de justice, de services de santé, de forces de l'ordre, et un coût indirect pour la société qui se traduit par des souffrances physiques, psychiques, que l'on peut évaluer financièrement, et également par des dégradations, des pertes de productivité, des victimes, des auteurs de eux-mêmes, etc. Si bien que, avec cet essai, j'estime à près de 100 milliards d'euros par an ce coût de la virilité induit par les comportements virils des hommes. Alors, c'est absolument colossal puisque c'est à peu près le déficit annuel du budget général de la France. Donc, si on économise ce coût, le budget est à peu près à l'équilibre. Mais là où je tiens à annoncer une bonne nouvelle, donc pour mes lecteurs et les auditeurs aujourd'hui, c'est que ce coup n'est absolument pas une fatalité, puisque les hommes ne sont pas violents, n'ont pas ces comportements, enfin tout cela ne relève pas de leur nature, puisqu'il y a des hommes qui sont tout à fait pacifiques et que la science a largement démontré que rien ne prédéterminait chez eux ces comportements, comme on en a parlé tout à l'heure pour les agressions sexuelles. En revanche, ce dont je me suis aperçue, c'est que la moitié de la population, à savoir les femmes, elles commettent beaucoup moins de violences physiques et psychologiques que les hommes. Ce n'est pas qu'elles n'en soient pas capables par nature, mais c'est que l'éducation qu'elles reçoivent les façonne pour que finalement elles deviennent des êtres beaucoup plus pacifiques et qui ont des comportements beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Du coup, je fais le constat que si on arrêtait d'éduquer les garçons à travers les valeurs viriles et qu'on leur transmettait davantage les valeurs induites par l'éducation des filles, on aboutirait à des développements économiques, démocratiques, sociaux absolument majeurs. Et donc, je propose que nous éduquions les garçons comme les filles et on économiserait ce coût à la fois humain et financier. Tout un programme.
Super, merci Lucille. Estelle, tu veux nous parler de ton actu, s'il te plaît ?
Alors, ça ne sera pas mon actu, c'est plus des rocos. Voilà. En fait, j'ai deux podcasts à recommander dans un podcast. Mais bon, je le fais quand même. Alors, j'en profite de l'actualité autour du MeToo Inceste pour parler déjà d'un podcast que je trouve génial et que je vous recommande vraiment toutes et tous. C'est La fille sur le canapé, qui est en fait un podcast de l'autrice Axel Ndjanjike, qui est sorti donc sur Nouvelles Écoutes dans le flux de documentaires intimes et politiques et qui regroupe une série de témoignages de jeunes filles et de petites filles noires. Alors, c'est des adultes aujourd'hui, mais elles reviennent sur ce qui s'est passé étant enfants. Donc, ça aborde les sujets de l'inceste. Donc, c'est très lourd. Donc, voilà, encore une fois, comme on dit, c'est trigger warning. Ça veut dire que ça peut en fait faire éveiller chez certains auditeuristes des traumatismes qui enfouis. Et il faut faire très attention en l'écoutant. Mais je le recommande vivement parce que la voix en fait des personnes issues des minorités ethniques quand il s'agit de violences sexuelles est invisibilisée et pas assez mise en avant. Donc je me permets d'en parler. Il y a beaucoup de médias qui ont fait des très bons sujets, des très bons papiers sur les podcasts et sur les productions sonores qui sont sorties récemment autour de l'inceste. Je pense notamment à Ou peut-être une nuit, qui a été produit par Louis Média, qui est vraiment un doc qui est très dur à écouter, mais qui est vraiment bien et nécessaire. Et voilà, je ne voulais pas que la fille sur un canapé puisse passer aussi sous silence, parce que c'est aussi des choses qui sont particulières, surtout, et très dures. À verbaliser dans la communauté noire, au sein des personnes noires, parce que c'est la sexualité est un sujet très tabou, tout simplement, chez nous. Et pareil, transition, pour la deuxième recommandation podcast, c'est un tout nouveau que je viens de découvrir qui s'appelle Jeans, que j'adore. Je suis obsédée par ça, donc c'est J-I-N-S, et en fait, ça veut dire sexe en arabe. Et Jeans, c'est un podcast qui, pour une fois, donne la parole aux personnes concernées, donc des Français ou pas, en fait, issus de cultures musulmanes, qui parlent de leur sexualité. Alors, ça peut être très bien des personnes LGBTQIA+, donc des femmes de culture musulmane qui sont lesbiennes, des imams parlent aussi de ça. On a aussi des sociologues, des linguistes qui viennent, en fait, aborder toute cette culture qui est très, très méconnue, et je pense que c'est aussi pour ça que je le recommande aujourd'hui. C'est une culture en fait qui est très méconnue, parce que malheureusement en France on a tendance à fétichiser ou à exotiser ou à dire en fait aux femmes musulmanes ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles doivent porter. Et en fait là on tend le micro à des femmes et à des hommes, parce qu'il y a les deux, qui parlent de leur sexualité. Et encore une fois, je dis ça parce que on suppose que voilà, les hommes musulmans ou ici de culture musulmane auraient une sexualité frustrée, voilà, ou réelle ou supposée. Et je trouve ça intéressant pour une fois de se poser, avoir des vrais experts qui parlent de choses dont ils connaissent. Et voilà. Et donc, je vous recommande vraiment le podcast Jean et la fille sur un canapé.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Génial, merci Estelle. Et aucun problème pour commander des podcasts ici. Hein. Si c'est un podcast, c'est aussi parce qu'on aime bien les podcasts, donc pas de souci. Juliette, tu veux nous parler de ton actu, s'il te plaît ?
Alors oui, je vais vous parler en fait de l'association que je préside qui s'appelle Égalité Ensemble et qu'on va lancer officiellement le 8 mars prochain. Donc, c'est une association qui défend un monde paritaire, mixte, inclusif et en particulier l'égale dignité de chaque être humain. Parce qu'il est évident que si, à la base, on ne considère pas chaque être humain comme une personne d'égale dignité à l'autre, eh bien, son égalité des chances est diminuée. Et donc, il s'agit d'agir notamment pour permettre plus de parité, en particulier au sein des partis politiques. Alors nous, on a agi au sein de La République En Marche parce qu'on est, cette association a été fondée par des personnes issues de la team Égalité en particulier. Donc on a obtenu un certain nombre de choses, notamment dans le cadre de la réforme de nos statuts, la parité au niveau des comités locaux, la parité au niveau des référents, la parité au niveau du bureau exécutif. Ça, c'est dans cette logique justement de permettre à ce qu'il y ait une égalité structurelle pour éviter voilà, que la domination éventuelle d'un genre sur l'autre ne s'exprime trop structurellement. Alors, le but de tout ça, c'est d'arriver à ce qu'on ait une représentation hein, nationale au niveau, je dirais, de l'Assemblée qui perdure en étant plus paritaire. Pareil pour les gouvernements et la suite. Donc, nous, on va encourager ça. Et l'objectif, c'est vraiment de porter cette égalité ensemble. Donc, c'est que toute la société s'investisse sur ce point. Et on fera, par exemple, le 8 mars, 8 propositions en faveur de l'égalité qu'on soumettra en particulier voilà, aux membres du gouvernement et un peu partout, on fera des événements et on essaiera de travailler comme ça tout au long de l'année et puis aussi les suivantes. Donc ça, c'est la principale réalité. Voilà, en espérant que ça aide pour améliorer les choses, parce que c'est vraiment ça le but, c'est de qu'on progresse tous ensemble. Voilà.
Super, merci Juliette, beau projet, effectivement. Je vous remercie beaucoup toutes les trois d'avoir participé à ce 14e épisode de Popol.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.